Chapitre 8, où l'on voit ce qu'il en coûta à Georges de Blancheland pour s'être approché du lac habité par les ondines. Abeille s'avança sur le sable entre deux bouquets de saules, et devant elle le petit génie du lieu sauta dans l'eau en laissant à la surface des cercles qui s'agrandirent et s'effacèrent. Ce génie était une petite grenouille verte au ventre blanc. Tout se taisait, un souffle frais passait sur ce lac clair, dont chaque lame avait le pli gracieux d'un sourire. « Ce lac est joli, » dit Abeille, « mais mes pieds saignent dans mes petits souliers déchirés et j'ai grand faim. Oh, je voudrais bien être dans le château. » « Petite sœur, » dit Georges, « assieds-toi sur l'herbe. » Je vais pour les rafraîchir envelopper tes pieds dans des feuilles, puis j'irai te chercher à souper. J'ai vu là-haut, proche de la route, des ronces toutes noires de mûres. Je t'apporterai dans mon chapeau les plus belles et les plus sucrées. Donne-moi ton mouchoir, j'y mettrai des fraises, car il y a des fraisiers ici près, au bord du sentier, à l'ombre des arbres. Et je remplirai mes poches de noisettes. Il arrangea au bord du lac, sous un saule, un petit lit de mousse pour Abeille, et il partit. Abeille, étendue, les mains jointes sur son lit de mousse, vit des étoiles s'allumer en tremblant dans le ciel pâle. Puis ses yeux se fermèrent à demi. Pourtant, il lui semble avoir en l'air un petit nain monté sur un corbeau. Ce n'était point une illusion. Ayant tiré les rênes comme mordait l'oiseau noir, le nain s'arrêta au-dessus de la jeune fille et fixa sur elle ses yeux ronds, puis il piqua des deux et partit au grand vol. L'abeille vit confusément ces choses et s'endormit. Elle dormait quand Georges revint avec sa cueillette qu'il déposa près d'elle. Il descendit au bord du lac en attendant qu'elle se réveillât. Le lac dormait sous sa délicate couronne de feuillage. Une vapeur légère traînait mollement sur les eaux. Tout à coup, la lune se montra entre les branches. Aussitôt, les ondes furent jonchées l'étincelle. Georges vit bien que ces lueurs qui éclairaient les eaux n'étaient pas toutes le reflet brisé de la lune, car il remarqua des flammes bleues qui s'avançaient en tournoyant, avec des ondulations et des balancements, comme si elles dansaient des rondes. Il reconnut bientôt que ces flammes tremblaient sur des fronts blancs, sur des fronts de femmes. En peu de temps, de belles têtes couronnées d'algues et de pétoncles, des épaules sur lesquelles se répandaient des chevelures vertes, des poitrines brillantes de perles et d'où glissaient des voiles, s'élevèrent au-dessus des vagues. L'enfant reconnut les ondines et voulut fuir. Mais déjà, des bras pâles et froids l'avaient saisi. Il était emporté, malgré ses efforts et ses cris, à travers les eaux, dans des galeries de cristal et de porphyre. Chapitre 9, où l'on voit comment Abeille fut conduite chez les nains. La lune s'était élevée au-dessus du lac, et les eaux ne reflétaient plus que le disque émietté de l'astre. Abeille dormait encore. Le nain, qui l'avait observé, revint vers elle sur son corbeau. Il était suivi cette fois d'une troupe de petits hommes. C'étaient de très petits hommes. Une barbe blanche leur pendait jusqu'aux genoux. Ils avaient l'aspect de vieillards avec une taille d'enfant. À leur tablier de cuir et au marteau qu'ils portaient suspendus à leur ceinture, on les reconnaissait pour des ouvriers travaillant les métaux. Leur démarche était étrange, sautant à de grandes hauteurs et faisant d'étonnantes culbutes, ils montraient une inconcevable agilité. Et en cela, ils étaient moins semblables à des hommes qu'à des esprits. Mais en faisant leurs cabrioles les plus folâtres, ils gardaient une inaltérable gravité, en sorte qu'il était impossible de démêler leur véritable caractère. Ils se placèrent en cercle autour de la dormeuse. « Eh bien, dit du haut de sa monture emplumée le plus petit des nains, eh bien, vous ai-je trompé en vous avertissant que la plus jolie princesse de la terre dormait au fond du lac et ne me remerciez-vous pas de vous l'avoir montré ?»« Nous t'en remercions, Bob, répondit un des nains qui avait l'air d'un vieux poète. En effet, il n'y a rien au monde de si joli que cette jeune demoiselle. » Son teint est plus rose que l'aurore qui se lève sur la montagne, et l'or que nous forgeons n'est pas aussi éclatant que celui de cette chevelure. Il est vrai, Pique. Pique, rien n'est plus vrai, répondirent les nains. Mais que ferons-nous de cette jolie demoiselle ? Pique, semblable à un poète très âgé, ne répondit point à cette question des nains, parce qu'il ne savait pas mieux qu'eux ce qu'il fallait faire de la jolie demoiselle. Un nain surnommé Regular dit « Construisons une grande cage et nous l'y enfermerons. » Un autre nain nommé Dig combattit la proposition de Rug. De l'avis de Dig, on ne mettait en cage que les animaux sauvages et rien ne pouvait encore faire deviner que la jolie demoiselle fut de ceux-là. Mais Rug tenait à son idée, faute d'en avoir une autre à mettre à la place. Il la défendit avec subtilité. « Si cette personne, dit-il, n'est point sauvage, elle ne manquera pas de le devenir par l'effet de la cage, qui deviendra en conséquence utile et même indispensable. » Ce raisonnement déplut au nain, et l'un d'eux, nommé Tad, le condamna avec indignation. C'était un nain plein de vertus. Il proposa de ramener la belle enfant à ses parents, qu'il pensait être le puissant seigneur. Cet avis du vertueux Tad fut repoussé comme contraire à la coutume des nains. « C'est la justice, disait Tad, et non la coutume qu'il faut suivre. » On ne l'écoutait plus, et l'assemblée s'agitait tumultueusement, lorsqu'un nain nommé Pau, qui avait l'esprit simple, mais juste, donna son avis en ces termes. « Il faut commencer par réveiller cette demoiselle, puisqu'elle ne se réveille pas d'elle-même. Si elle passe la nuit de la sorte, elle aura demain les paupières gonflées, et sa beauté en sera moindre, car il est très malsain de dormir dans un bois au bord d'un lac. » Cette opinion fut généralement approuvée parce qu'elle n'en contrariait aucune autre. Pique, semblable à un vieux poète accablé de mots, s'approcha de la jeune fille et la contempla gravement, dans la pensée qu'un seul de ses regards suffirait pour tirer la dormeuse du fond du plus épais sommeil. Mais Pique s'abusait sur le pouvoir de ses yeux et Abeille continua à dormir les mains jointes. Ce que voyant, le vertueux Tad la tira doucement par la manche. Alors elle entr'ouvrit les yeux et se souleva sur son coude. Quand elle se vit sur un lit de mousse, entourée de nains, elle crut que ce qu'elle voyait était un rêve de la nuit, et elle frotta ses yeux pour les dessiller, et afin qu'il y entrât, au lieu de la vision fantastique, la pure lumière du matin, visitant sa chambre bleue où elle croyait être. Car son esprit, engourdi par le sommeil, ne lui rappelait pas l'aventure du lac. Mais elle avait beau se frotter les yeux, les nains n'en sortaient pas. Il lui fallut bien croire qu'ils étaient véritables. Alors, promenant ses regards inquiets, elle vit la forêt, rappela ses souvenirs, et cria avec angoisse « Georges, mon frère Georges !» Les nains s'empressaient autour d'elle, et de peur de les voir, elle se cachait le visage dans les mains. « Georges, Georges, où est mon frère Georges ? » criait-elle en sanglotant. Les nains ne le lui dirent pas, par la raison qu'ils l'ignoraient, et elle pleurait à chaudes larmes en appelant sa mère et son frère. Pad eut envie de pleurer comme elle. Mais pénétré du désir de la consoler, il lui adressa quelques paroles vagues. Ne vous tourmentez point, lui dit-il. Il serait dommage qu'une si jolie demoiselle se gâtât les yeux à pleurer. Contez-nous plutôt votre histoire, elle ne peut manquer d'être divertissante. Nous y prendrons un plaisir extrême. Elle ne l'écoutait point, elle se mit debout et voulut s'enfuir. Mais ses pieds enflés et nus lui causèrent une si vive douleur qu'elle tomba sur ses genoux en sanglotant de plus belle. Tad la souda dans ses bras et Po lui baisa doucement la main. C'est pourquoi elle osa les regarder et elle vit qu'ils avaient l'air pleins de pitié. Pic lui sembla un être inspiré mais innocent, et s'apercevant que tous ces petits hommes lui montraient de la bienveillance, elle leur dit « Petits hommes, il est dommage que vous soyez si laids, mais je vous aimerai tout de même si vous me donnez à manger car j'ai faim. » « Bob !» s'écrièrent à la fois tous les nains, « Allez chercher à souper !» Et Bob partit sur son corbeau. Toutefois, les nains ressentaient l'injustice qu'avait cette fillette de les trouver laids. Ragon était fort en colère. Pix disait, « Bon, ce n'est qu'une enfant, elle ne voit pas le feu du génie qui brille dans mes regards, et leur donne tour à tour la force qui terrasse et la grâce qui charme. » Po songeait, « J'aurais peut-être mieux fait de ne pas éveiller cette jeune demoiselle qui nous trouve laids. » Mais Tad lui dit en souriant, « Mademoiselle, vous nous trouverez moins laids quand vous nous aimerez davantage. » Assez beau, Bob reparut sur son corbeau. Il portait sur un plat d'or une perdrix rôtie avec un pain de gruau et une bouteille de vin de Bordeaux. Il déposa ce souper au pied d'abeille en faisant un nombre incalculable de culbutes. Abeille mangea et dit, petits hommes, votre souper était très bon. Je me nomme Abeille. Cherchons mon frère et allons ensemble aux Clarides, où maman nous attend dans une grande inquiétude. » Mais Dig, qui était un bon nain, représenta à Abeille qu'elle était incapable de marcher, que son frère était assez grand pour se retrouver lui-même. Il avait pu lui arriver malheur dans cette contrée où tous les animaux féroces avaient été détruits. Et il ajouta, « Nous ferons un brancard, nous le couvrirons d'une jonchée de feuilles et de mousse. Nous vous y coucherons, nous vous porterons ainsi couché dans la montagne et nous vous présenterons roi des nains, comme le veut la coutume de notre peuple. » Tous les nains applaudirent. Abeille regarda ses pieds endoloris et se tut. Elle était bien aise d'apprendre qu'il n'y avait pas d'animaux féroces dans la contrée. Pour le reste, elle se remettait à l'amitié des nains. Déjà, ils construisaient le brancard. Ceux qui avaient des cogniers entaillaient à grands coups de pied les deux jeunes sapins. Cela remit à Rugg son idée en tête. « Si au lieu d'un brancard, dit-il, nous construisions une cage !» Mais il souleva une réprobation unanime. Tad, le regardant avec mépris, s'écria, « Rugg, tu es plus semblable à un homme qu'à un nain. Mais ceci du moins est à l'honneur de notre race, que le plus méchant des nains en est aussi le plus bête. » Cependant, l'ouvrage se faisait. Les nains sautaient en l'air pour atteindre les branches qu'ils coupaient au vol et dont ils formaient habilement un siège à claire-voie. L'ayant recouvert de mousse et de feuillets, ils y firent asseoir Abeille. Puis ils saisirent à la fois les deux montants, ohé, se les mirent sur l'épaule, hop, et prirent leur course vers la montagne, hip. Chapitre 10, qui relate fidèlement l'accueil que le roi Locke fit à l'abeille des Clarides. Ils montaient par un chemin sinueux la côte boisée. Dans la verdure grise des chênes nains, Des blocs de granit se dressaient çà et là, stériles et rouillés, et la montagne rousse, avec ses gorges bleuâtres, fermait l'âpre paysage. Le cortège, que Bob précédait sur sa monture ailée, s'engagea dans une fissure tapissée de ronces. Abeille, avec ses cheveux d'or répandus sur ses épaules, ressemblait à l'aurore levée sur la montagne, s'il est vrai que parfois l'aurore s'effraie, appelle sa mère et veut fuir, car la fillette en vint à ses trois points, sitôt qu'elle aperçut confusément des nains terriblement armés en embuscade dans toutes les anfractuosités du rocher. L'arc bandé ou la lance en arrêt, ils se tenaient immobiles. Leurs tuniques de peau de bête et de longs couteaux pendus à leur ceinture rendaient leur aspect terrible. Du gibier de poils et de plumes gisait à leur côté. Mais ces chasseurs, à ne regarder que leur visage, n'avaient pas l'air farouches. Ils paraissaient au contraire doux et graves, comme les nains de la forêt, auxquels ils ressemblaient beaucoup. Debout, au milieu d'eux, se tenait un nain plein de majesté. Il portait à l'oreille une plume de coq, et au front un diadème fleuronné de pierres énormes. Son manteau, relevé sur l'épaule, laissait voir un bras robuste chargé de cercles d'or. Un olifant d'ivoire et d'argent ciselé pendait à sa ceinture. Il s'appuyait de la main gauche sur sa lance, dans l'attitude de la force au repos, et il tenait la droite au-dessus de ses yeux pour regarder du côté d'abeille et de la lumière. « Roi Locke, lui dirent les nains de la forêt, nous t'amenons la belle enfant que nous avons trouvée, elle se nomme Abeille. »« Vous faites bien, dit le roi Locke, elle vivra parmi nous, comme le veut la coutume des nains. » Puis, s'approchant d'Abeille, « Abeille, lui dit-il, soyez la bienvenue. » Il lui parlait avec douceur, car il se sentait déjà de l'amitié pour elle. Il se haussa sur la pointe des pieds pour baiser la main qu'elle laissait pendre, et il l'assura que non seulement il ne lui serait point fait de mal, mais encore qu'on la contenterait dans tous ses désirs, quand bien même elle souhaiterait des colliers, des miroirs d'Hélène de Cachemire et des soies de la Chine. « Je voudrais bien des souliers, » répondit Abeille. Alors le roi Locke frappa de sa lance un disque de bronze qui était suspendu à la paroi du rocher, et aussitôt l'on vit quelque chose venir du fond de la caverne en bondissant comme une balle. Cela grandit et montra la figure d'un nain, qui rappelait par le visage les traits que les peintres donnent à l'illustre Bélisaire, mais dont le tablier de cuir à bavette révélait un cordonnier. C'était en effet le chef des cordonniers. « Truc !» lui dit le roi, « choisis dans nos magasins le cuir le plus souple. Prends du drap d'or et d'argent, demande au gardien de mon trésor 1000 perles de la plus belle eau et compose avec ce cuir, ces tissus et ces perles, une paire de souliers pour la jeune abeille. » À ces mots, Truc se jeta aux pieds d'abeille et il les mesura avec exactitude. Mais elle dit, « « Petit roi Locke, il faut me donner tout de suite les beaux souliers que tu m'as promis, et quand je les aurai, je retournerai aux Clarides vers ma mère. »« Vous aurez vos souliers, abeille, » répondit le roi Locke. « Vous les aurez pour vous promener dans la montagne, et non pour retourner aux Clarides, car vous ne sortirez point de ce royaume, où vous apprendrez le beau secret qu'on n'a point deviné sur la terre. » Les nains sont supérieurs aux hommes, et c'est pour votre bonheur que vous avez été recueillis par eux. Oh, « C'est pour mon malheur, » répondit Abeille. « Petit roi Locke, donne-moi des sabots comme ceux des paysans, et laisse-moi retourner aux Clarides. » Mais le roi Locke fit un signe de tête pour exprimer que cela n'était pas possible. Alors Abeille joignit les mains et prit une voix caressante. « Petit roi Locke, laisse-moi partir et je t'aimerai bien. Vous m'oublierez, abeille, sur la terre lumineuse. Petit roi Log, je ne vous oublierai pas et je vous aimerai autant que souffle des airs. Et qui est souffle des airs? Mais c'est mon cheval Isabelle. Il a des rênes roses et il mange dans ma main. Quand il était petit, l'écuyer Francoeur me l'amenait le matin dans ma chambre et je l'embrassais. Même maintenant, Francoeur est à Rome et souffle des airs est trop grand pour monter les escaliers. Le roi Locke sourit. Abeille, voulez-vous m'aimer mieux encore que souffle des airs? Je veux bien. À la bonne heure. Je veux bien, mais je ne peux pas. Je vous hais, petit roi Locke, parce que vous m'empêchez de revoir ma mère et Georges. Qui est Georges? Ben, c'est Georges et je l'aime. L'amitié du roi Locke pour Abeille s'était beaucoup accrue en peu d'instants, et comme il avait déjà l'espérance de l'épouser quand il serait en âge et de réconcilier par elle les hommes avec les nains, il craignit que Georges ne devînt plus tard son rival et ne renversât ses projets. C'est pourquoi il fronça les sourcils et s'éloigna en baissant la tête comme un homme soucieux. Abeille, voyant qu'elle l'avait fâché, le tira doucement par un pan de son manteau. « Petit roi Locke, lui dit-elle d'une voix triste et tendre, pourquoi nous rendons-nous malheureux l'un et l'autre ?»« Abeille, c'est la faute des choses, répondit le roi Locke. Je ne puis vous ramener à votre mère, mais je lui enverrai un songe qui l'instruira de votre sort, chère abeille, et qui la consolera. » « Petit roi Locke, répondit Abeille en souriant dans ses larmes, tu as une bonne idée, mais je vais te dire ce qu'il faudra faire. Il faudra envoyer chaque nuit à ma mère un songe dans lequel elle me verra, et m'envoyer à moi chaque nuit un songe dans lequel je verrai ma mère. » Le roi Locke promit de le faire, et ce qui fut dit fut fait. Chaque nuit, Abeille vit sa mère, et chaque nuit, la duchesse vit sa fille. Cela contentait un peu leur amour. Chapitre 11, où les curiosités du royaume des nains sont parfaitement décrites, ainsi que les poupées qui furent données à Abeille. Le royaume des nains était profond et s'étendait sous une grande partie de la terre. Bien qu'on n'y vît le ciel que çà et là, à travers quelques fentes du rocher, les places, les avenues, les palais et les salles de cette région souterraine n'étaient pas plongées dans d'épaisses ténèbres. Quelques chambres et plusieurs cavernes restaient seules dans l'obscurité. Le reste était éclairé, non par des lampes ou des torches, mais par des astres, des météores, qui répandaient une clarté étrange et fantastique, et cette clarté luisait sur d'étonnantes merveilles. Des édifices immenses avaient été taillés dans le roc, et l'on voyait par endroits des palais découpés dans le granit à de telles hauteurs que leurs dentelles de pierre se perdaient sous les voûtes de l'immense caverne dans une brume traversée par la lueur orangée de petits astres moins lumineux que la lune. Il y avait dans ces royaumes des forteresses d'une masse écrasante, des amphithéâtres dont les gradins de pierre formaient un demi-cercle que le regard ne pouvait embrasser dans son étendue, et de vastes puits aux parois sculptées dans lesquels on descendait toujours sans jamais trouver le fond. Toutes ces constructions, peu appropriées en apparence à la taille des habitants, convenaient parfaitement à leur génie curieux et fantasque. Les nains, couverts de capuchons où des feuilles de fougère étaient piquées, circulaient autour des édifices avec une agilité spirituelle. Il n'était pas rare d'en voir qui sautaient de la hauteur de 2 ou 3 étages sur la chaussée de lave et rebondissaient comme des balles. Leurs visages gardaient pendant ce temps cette gravité auguste que la statuaire donne à la figure des grands hommes de l'Antiquité. Aucun n'était oisif, et tous s'empressaient à leur travail. Des quartiers entiers retentissaient du bruit des marteaux. Les voix déchirantes des machines se brisaient contre les voûtes des cavernes, et c'était un curieux spectacle que de voir la foule des mineurs, forgerons, batteurs d'or, joailliers, polisseurs de diamants, manier avec la dextérité des singes le pic, le marteau, la pince, la lime. Mais il était une région plus tranquille. Là, des figures grossières et puissantes, des piliers informes, sortaient confusément de la roche brute et semblaient dater d'une antiquité vénérable. Là, un palais aux portes basses étendait ses formes trapues. C'était le palais du roi Locke. Tout contre était la maison d'abeille, maison ou plutôt maisonnette, ne contenant qu'une seule chambre, laquelle était tapissée de mousseline blanche. Des meubles en sapin sentaient bon dans cette chambre. Une déchirure de la roche y laissait passer la lumière du ciel et par les belles nuits, on y voyait les étoiles. L'abeille n'avait point de serviteurs attitrés, mais tout le peuple des nains s'empressait à l'envi de pourvoir à ses besoins et de prévenir tous ses désirs, hors celui de remonter sur la terre. Les plus savants nains, qui possédaient de grands secrets, se plaisaient à l'instruire, non pas avec des livres, car les nains n'écrivent pas, mais en lui montrant toutes les plantes des monts et des plaines, les espèces diverses d'animaux et les pierres variées qu'on extrait du sein de la terre. Et c'est par des exemples et des spectacles qu'il lui enseignait avec une gaieté innocente les curiosités de la nature et les procédés des arts. Il lui faisait des jouets tels que les enfants des riches de la terre n'en eurent jamais, car ces nains étaient industrieux et inventaient d'admirables machines. C'est ainsi qu'ils construisirent pour elle des poupées, sachant se mouvoir avec grâce et s'exprimer selon les règles de la poésie. Quand on les assemblait sur un petit théâtre, dont la scène représentait le rivage des mers, le ciel bleu, des palais et des temples, elles figuraient les actions les plus intéressantes. Bien qu'elles ne fussent pas plus hautes que le bras, elles ressemblaient exactement les unes à des vieillards respectables, les autres à des hommes dans la force de l'âge, ou à de belles jeunes filles vêtues de blanches tuniques. Il y avait aussi, parmi elles, des mères pressant contre leur sein des petits-enfants innocents. Et ces poupées éloquentes s'exprimaient et agissaient sur la scène comme si elles étaient agitées par la haine, l'amour ou l'ambition. Elles passaient habilement de la joie à la douleur, et elles imitaient si bien la nature qu'elles excitaient le sourire ou tiraient des larmes des yeux. Abeille battait des mains à ce spectacle. Les poupées qui aspiraient à la tyrannie lui faisaient horreur. Elles se sentaient au contraire des trésors de pitié pour la poupée, jadis princesse, maintenant veuve et captive, la teinte sainte de Cyprès, qui n'a d'autre ressource pour sauver la vie de son enfant que d'épouser, hélas, le barbare qui la fit veuve. L'abeille ne se laissa point de ce jeu que les poupées variaient à l'infini. Les nains lui donnaient aussi des concerts et lui enseignaient à jouer du luth, de la viole d'amour, du théorbe, de la lyre et de divers autres instruments. En sorte qu'elle devenait bonne musicienne et que les actions représentées sur le théâtre par les poupées lui communiquaient l'expérience des hommes et de la vie. Le roi Locke assistait aux représentations et aux concerts, mais il ne voyait et n'entendait qu'Abeille en qui il mettait peu à peu toute son âme. Cependant, les jours et les mois s'écoulaient, les années accomplissaient leur tour, et Abeille restait parmi les nains, sans cesse divertie et toujours pleine du regret de la terre. elle devenait une belle jeune fille. Son étrange destinée donnait quelque chose d'étrange à sa physionomie, qui n'en était que plus agréable. Chapitre 12, dans lequel le trésor du roi Locke est décrit aussi bien que possible. Il y avait 6 ans, jour pour jour, qu'Abeille était chez les nains. Le roi Locke l'appela dans son palais, et il donna devant elle l'ordre à son trésorier de déplacer une grosse pierre qui semblait scellée dans la muraille, mais qui en réalité n'y était que posée. Ils passèrent tout droit par l'ouverture que laissa la grosse pierre et se trouvèrent dans une fissure du roc où 2 personnes ne pouvaient se tenir de front. Le roi Locke s'avança le premier dans ce chemin obscur et Abeille le suivit en tenant un pan du manteau royal. Ils marchèrent longtemps. Par intervalles, les parois du rocher se rapprochaient tellement que la jeune fille craignait d'y être prise sans pouvoir ni avancer ni reculer et de mourir là. Et le manteau du roi Locke fuyait sans cesse devant elle par l'étroit et noir sentier. Enfin, le roi Locke rencontra une porte de bronze qu'il ouvrit et une grande clarté se fit. « Petit roi Locke, s'écria Abeille, je ne savais pas encore que la lumière fait une si belle chose. » Mais le roi Locke, la prenant par la main, l'introduisit dans la salle d'où venait la lumière et lui dit « Regarde !» Abeille, éblouie, ne vit rien d'abord, car cette salle immense, portée sur de hautes colonnes de marbre, était du sol au faîte tout éclatante d'or. Au fond, sur une estrade formée de gemmes étincelantes, sertie dans l'or et l'argent et dont les degrés étaient couverts d'un tapis merveilleusement brodé, s'élevait un trône d'ivoire et d'or, avec un dais composé d'émaux translucides, aux côtés duquel 2 palmiers âgés de 3 000 ans s'élançaient hors de 2 vases gigantesques ciselés autrefois par le meilleur artiste des nains. Le roi Locke monta sur ce trône et fit tenir la jeune fille debout à sa droite. « Abeille, lui dit-il, ceci est mon trésor. Choisissez tout ce qu'il vous plaira. » Pendues aux colonnes d'immenses boucliers d'or, recevaient les rayons du soleil et les renvoyaient en gerbes étincelantes. Des épées, des lances s'entrecroisaient, ayant une flamme à leur pointe. Des tables qui régnaient autour des murailles étaient chargées de hanaps, de buires, d'aiguillères, de calices, de ciboires, de patènes, de gobelets, de vidres comme d'or, de cornes à boire en ivoire avec des anneaux d'argent, de bouteilles énormes en cristal de roche, de plats d'or et d'argent ciselés, de coffrets, de reliquaires en forme d'église, de cassolettes, de miroirs, de candélabres et de torchères aussi admirables par le travail que par la matière et de brûle-parfums représentant des monstres. Et l'on distinguait sur une des tables un jeu d'échecs en pierre de lune. Choisissez, Abeille, répéta le roi Locke. Mais, levant les yeux au-dessus de ses richesses, Abeille vit le ciel bleu par une ouverture du plafond, et comme si elle avait compris que la lumière du ciel donnait seule à ces choses tout leur éclat, elle dit seulement : Petit roi Locke, je voudrais remonter sur la terre. » Alors le roi Locke fit un signe à son trésorier, qui, soulevant d'épaisses draperies, découvrit un coffre énorme, tout armé de lames de fer et de ferrures découpées. Ce coffre étant ouvert, il en sortit des rayons de 1000 nuances diverses et charmantes. Chacun de ces rayons jaillissait d'une pierre précieuse artistement taillée. Le roi Loki trempa les mains, et alors on vit rouler dans une confusion lumineuse l'améthyste violette et la pierre des vierges, l'émeraude aux trois natures, l'une d'un vert sombre, l'autre qu'on nomme miellé parce qu'elle est de la couleur du miel, la troisième d'un vert bleuâtre qu'on appelle béryl et qui donne de beaux rêves, la topaze orientale, le rubis aussi beau que le sang des braves, le saphir d'un bleu sombre qu'on nomme saphir mâle et le saphir d'un bleu pâle qu'on nomme saphir femelle, le cymophane, l'hyacinthe, le clase, la turquoise, l'opale, dont les lueurs sont plus douces que l'aurore, l'algue marine et le grenat syrien. Toutes ces pierres étaient de l'eau la plus limpide et du plus lumineux orient. Et de gros diamants jetaient au milieu de ces feux colorés d'éblouissantes étincelles blanches. « Abeille, choisissez !» dit le roi Locke. Mais Abeille secoua la tête et dit « Petit roi Locke, à toutes ces pierres, je préfère un seul des rayons de soleil qui se brise sur le toit d'ardoise du château des Clarides. » Alors le roi Locke fit ouvrir un second coffre qui ne contenait que des perles. Mais ces perles étaient rondes et pures. Leurs reflets changeants prenaient toutes les teintes du ciel et de la mer et leur éclat était si doux qu'il semblait exprimer une pensée d'amour. « Prenez, » dit le roi Locke. Mais Abeille lui répondit « Petit roi Locke, ces perles me rappellent le regard de Georges de Blanchelande. J'aime ces perles, mais j'aime mieux les yeux de Georges. » En entendant ces mots, le roi Locke détourna la tête. Pourtant, il ouvrit un troisième coffre et montra à la jeune fille un cristal dans lequel une goutte d'eau était prisonnière depuis les premiers temps du monde. Et quand on agitait le cristal, on voyait cette goutte d'eau remuer. Il lui montra aussi des morceaux d'ambre jaune dans lesquels des insectes plus brillants que des pierreries étaient pris depuis des milliards d'années. On distinguait leurs pattes délicates et leurs fines antennes, et ils se seraient remis à voler si quelque puissance avait fait fondre comme de la glace leur prison parfumée. Ce sont là de grandes curiosités naturelles. Je vous les donne, Abeille. » Mais Abeille répondit, « Petit roi Locke, gardez l'ambre et le cristal, car je ne saurais rendre la liberté ni à la mouche, ni à la goutte d'eau. » Le roi Locke l'observa quelque temps et dit, « Abeille, les plus beaux trésors seront bien placés entre vos mains. Vous les posséderez, ils ne vous posséderont pas. L'avare est la proie de son or. Ceux-là seuls qui méprisent la richesse peuvent être riches sans danger. Leur âme sera toujours plus grande que leur fortune. » Ayant ainsi parlé, il fit un signe à son trésorier qui présenta sur un coussin une couronne d'or à la jeune fille. « Recevez ce joyau comme un signe de l'estime que nous faisons de vous, Abeille, » dit le roi Locke. « On vous nommera désormais la princesse des nains. » Et il mit lui-même la couronne sur le front d'Abeille.